Et le club de la tête au carré qui fête donc à sa manière aujourd'hui le 60e anniversaire du Masque et la Plume, avec aujourd'hui autour du micro notre tribune de chroniqueurs critiques pour débattre de l'actualité scientifique. Et comme la science c'est aussi de la culture, le lien est tout tracé pour ce clin d'œil à l'équipe de Jérôme Garcin. Dans un instant, un triptyque de Dominique et une Monchicourt pour s'emparer de sujets qui font parler sur la scène scientifique. La COP21, les jeux vidéo et la violence et la parole des scientifiques au cœur des débats de société. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages. J'ai vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé, la TAC. Et puis à la une de la science aujourd'hui, la traque de la matière noire. Axel Villard, bonjour.
On va essayer de rester sérieux 10 minutes avec le plus gros détecteur de matière noire au monde qui vient d'être inauguré dans les Alpes italiennes. Il s'appelle Xénon 1T. On attend vos questions sur Twitter pour la une.
Voilà donc pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier, préparée avec Emmanuel Fournier et Carole Sauvage.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Villard sur France Inter.
Et dans notre club du Masque au carré aujourd'hui, les trois Dominique, Le Glu, Volton, Dupagne et une Marie-Odile Monchicourt. Bonjour à
Bonjour.
Tribune critique autour de l'actualité scientifique avec les thèmes choisis. Cette semaine, la COP21, sommes-nous saturés avant même qu'elle n'ait commencé? Les jeux vidéo engendrent-ils de la violence chez les jeunes? Et puis les scientifiques doivent-ils plus s'engager autour des grandes questions de société? Dominique Volton, ça vous gratouille ou ça vous chatouille la COP21?
Si vous voulez, aspect positif, quand même, la problématique de l'écologie est rentrée dans les consciences mondiales. C'est une des grandes victoires, quand même, dans les 50 dernières années. Ainsi que les ONG, d'ailleurs. Je crois qu'il y a deux grands changements politiques. C'est qu'une prise de conscience de l'importance de l'écologie, peu importe comment on l'appelle, et des ONG. Ceci dit, à l'arrivée d'un événement, bon, là, la tragédie fait que ça change un peu la donne, mais enfin, quand même, ça fait des mois et des mois qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus. Le prétexte est de mobiliser des opinions. Le risque est évidemment la saturation d'informations et une forme de rejet parce que la culpabilité qui est véhiculée au nom de la responsabilité dans l'ensemble de ces messages fait que la réaction humaine peut consister à dire « Ok, on le sait très bien ».
Dominique Dupagne, on se pose toujours la question de l'impact des jeux vidéo sur les plus jeunes apparemment.
Hein. Oui, c'est un vieux mythe qui circule. Faire du jeu vidéo violent rendrait violent, on va en parler. Il faut démonter ce vieux mythe.
Ouais. Marie-Odile, est-ce qu'on entend assez les scientifiques dans le débat public aujourd'hui?
Il commence, mais c'est vrai qu'il traîne un peu la patte pour pouvoir s'exprimer librement sur des sujets sociaux. Oui.
Dominique Le Glu, tout va bien?
J'ai elle n'a plus rien, elle n'a plus de sujet.
Il y a trois sujets.
Alors, je peux vous parler du Beaujolais?
Oui, avec modération, évidemment. C'est important et on se retrouve dans quelques instants pour en discuter, pas du Beaujolais, des autres sujets avec les messages des auditeurs. La traque de la matière noire à la une de la science aujourd'hui avec l'inauguration la semaine dernière d'un gigantesque appareil dans le massif du Grand Sasso en Italie qui devient donc le plus grand détecteur de matière noire au monde. Une collaboration de 21 laboratoires issus de 11 pays. Dominique Terz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en ligne, vous êtes physicien responsable de ce programme dénommé Xénon 1T au Subatech de Nantes. Et puis Philippe Pénarejo, c'est avec nous en studio. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace. Alors justement Philippe, avant de retomber entre les mains de la physique, le problème de la matière noire, c'est un problème qui est né d'abord en observant les galaxies?
Oui, on s'est aperçu que les galaxies, alors c'était dans les années 30, oui. On s'est aperçu que certaines galaxies, dans des amas de galaxies, ne tournaient pas à la vitesse prédite par les lois de la gravitation. Donc, en gros, on a décidé qu'il manquait de la masse au centre, et c'est une masse qu'on ne voyait pas. Donc on s'est mis à la chercher. Oui. La première attitude, ça a été d'être assez conservateur, de chercher finalement une matière tout à fait normale, mais invisible, qui ne rayonnerait pas. Des étoiles noires, des planètes, des choses comme ça. Cette traque a eu lieu pendant les années 90. On a trouvé des choses, mais nettement en dessous de ce à quoi on peut s'attendre. Mmh. Donc, il a fallu inventer une substance, une matière qui serait exotique, qui ne serait pas de la matière telle qu'on la connaît, qui aurait les propriétés d'avoir une gravitation et des propriétés tout à fait bizarres, qui seraient par exemple de ne pas interagir avec la matière ordinaire, celle qui compose les étoiles et les planètes. Et donc voilà, on est parti de ce constat. Et c'est pour ça que cette question n'est pas restée dans le domaine des seuls astronomes, mais qu'elle a débordé sur le domaine des physiciens, parce qu'il fallait bien trouver une réalité physique à cette substance tout à fait mystérieuse, cette matière exotique. Alors elle est contrainte par les observations, par certaines théories, et on essaie de vérifier ça en ce moment.
Dominique Terz, maintenant, ce nouveau chasseur de matière noire, Xénon 1T, et le fleuron de la recherche, comment fonctionne-t-il?
Voilà, donc Xénon 1T, c'est une nouvelle expérience qu'on vient de construire avec la collaboration Xénon. C'est une expérience qui fonctionne avec du xénon liquide, une technologie qu'on a développée ensemble depuis le début des années 2000, avec des expériences xénon 1, xénon 10, xénon 100, qui ont déjà essayé d'observer directement l'interaction des particules de matière noire avec la matière ordinaire. Et donc aujourd'hui, on franchit un nouveau cap. On a jusqu'à présent pas eu de chance. La nature est beaucoup plus singulière qu'on l'imagine. La matière noire interagit vraiment très très peu avec la matière ordinaire. Et on a besoin d'un détecteur plus grand, capable de repousser les limites qu'on a atteintes jusqu'à aujourd'hui.
Alors justement, Dominique Terre, cette matière noire que vous essayez de détecter, elle vient d'où exactement alors ?
Alors c'est la matière noire, c'est la même matière noire que celle qu'on a observée depuis les années 1930. Hein. Donc c'est la matière noire qui est présente dans tout l'univers, elle est autour de nous, là, partout. Et donc on cherche une particule de notre côté qui pourrait être à l'origine de cette masse qu'on n'arrive pas à observer.
Philippe Henarejos, on n'entend pas bien Dominique Terce. Cette matière noire, on continue de la chercher dans l'univers également.
Oui, parce qu'on en voit les effets et dans les théories qu'on a élaborées pour essayer de traquer ces particules exotiques, on se dit que si elles interagissent peu, elles interagissent quand même un tout petit peu. Et donc on la cherche par certaines formes de rayonnement ou tout simplement on cherche déjà à la cartographier, à savoir où elle se trouve par les déformations de l'espace-temps qu'elle engendre et qui font que la lumière des astres qui, eux, bien visibles, est déformée. Et donc on arrive à cette cartographie pour essayer de comprendre sa répartition et ses propriétés.
Oui, alors Dominique Terre, justement, avec votre appareil, qu'est-ce qui va vous indiquer que vous seriez face à de la matière noire ?
Alors, on a un appareil qui est limité par un certain niveau de bruit, qui est associé donc à l'interaction de la matière ordinaire avec du xénon, donc à toutes les interactions qui sont générées par les rayons cosmiques, la radioactivité naturelle. Mmh. Et donc, on a évalué le niveau de bruit, on l'a mesuré. On attend une demi-interaction de matière ordinaire avec notre détecteur sur une année de temps de pause.
Une demi-interaction sur une année de temps de pause ?
Voilà.
Oui, donc il faut être bien présent le jour J.
On va observer donc pendant 2 ans l'univers avec cet instrument. Mm-hmm. Et puis on devrait donc avoir un recul à cause du bruit. Et là, on espère en mesurer plus. De manière à justement commencer à observer pour la première fois la matière noire.
Ouais, donc c'est vraiment l'aiguille dans la botte de foin, Philippe.
Ah oui, quand on dit qu'elle interagit très peu, c'est vraiment très peu. Donc il va falloir être patient et avoir beaucoup de chance.
Quand même. Ils sont payés toute l'année ou pas ?
Est-ce que Dominique Terce, vous risqueriez aujourd'hui à estimer le temps qu'il faudra attendre encore avant cette détection ?
Ah bah si on a de la chance, on peut l'avoir dès l'année prochaine. Avec la nouvelle expérience de Norrington, on a vraiment un gap technologique en termes de taille. Mm-hmm. On va vraiment, d'ici 2 ans, au mieux, on réduira la sensibilité atteinte jusqu'à aujourd'hui d'un facteur 100. Donc on devrait avoir dans un premier temps des résultats préliminaires déjà qui sont extrêmement intéressants. Et dans tous les cas, d'ici 2 ans, on aura atteint notre sensibilité. Donc on aura une probabilité importante de révéler une matière noire qu'on n'a pas pu observer jusqu'à présent.
Bon, ben, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Hein.
Vous n'êtes pas les seuls à faire la course. D'ailleurs, Dominique Terce, s'il y a des gens qui veulent essayer d'arriver avant vous.
Ah oui, une forte compétition.
Donc là, on est sur une quête scientifique internationale, multiculturelle, etc. Donc on a aussi d'autres expériences qui courent pour être les premières à observer la matière noire. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est qu'on est les premiers à avoir atteint la masse d'une tonne qui caractérise vraiment un step, un progrès important au niveau de la cible qu'on va pouvoir exposer. Donc c'est une cible extrêmement silencieuse. Hein. On a tout à l'intérieur de ce volume, un volume dans lequel on n'a absolument aucun dépôt d'énergie. C'est un gros challenge expérimental et un gros défi technologique.
Bon, et il y a un beau prix Nobel à la clé si évidemment vous êtes les premiers à détecter cette matière noire. Merci beaucoup Dominique Terce pour vos précisions. Philippe Henarejos, à bientôt.
Oui, à bientôt. Je voulais juste
je sentais signaler que vous vouliez me dire autre chose.
Il faut quand même préciser que cette matière noire, c'est pas anecdotique. Sur toute la matière de l'univers, c'est 85% de la matière. Et 15%, c'est ce qu'on voit. Voilà. Ouais. Et je vous parle pas de l'énergie sombre, ce sera plus
important. Et la matière ordinaire, c'est quoi dans tout ça?
15%.
Oui, donc c'est vraiment très peu. Merci beaucoup, Philippe Henarejos. À très bientôt. Et Axel, lundi, bon week-end. Allez, le club des masques au carré, c'est dans un instant. I see you clear as yesterday. Top down, fingers in the breeze, weaving through the lights in the sky. You said, baby, close your eyes. And I prayed we would always hold on to this feeling stronger, faster.
best do. But now you're on your knees on the highway, talking about wish we would've done shit my way. Well, there's so many things I might have done. And all these bodies trying to hold me, but they don't know me like you know me, cha-cha. Tucked inside me like a matchbox. You know I was doomed to fall in love with you. Put a bandaid on and move forward for the time being. But I can't tell if that's my heart beating or if that's time leaving. See, I've been talking to you lately. Feels like I've been going crazy. Trying to forge a hole in time and erase all those painful places. I was only sticking to the script, dawg. You wrote, I was only giving what I get, dawg. You know, cause I can paint a picture in the sky right where you wanna be. I never said it love, but more like you is what I wanna be.
Oh, oh,
where
there is pleasure, there's pain. Oh, oh, where there is pleasure, there's pain. Pleasure, there's pain. Pleasure, there's pain. This pain, pleasure, this pain.
Et c'est quoi mes livres avec Pleasure des Pain?
La tête au carré. Le club. Avec Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Voilà, le club du masque au carré aujourd'hui est l'occasion du 60e anniversaire du masque et la plume. Quatre chroniqueurs critiques pour hacher menu l'actualité scientifique. Dominique Leglu, directrice de la rédaction du magazine Science et Avenir. Marie-Odile Monchicourt, journaliste scientifique. Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS et directeur de la publication de la revue internationale Hermès. Et Dominique Dupagne, médecin généraliste et auteur du blog atout.org. Alors, on va vous appeler par vos noms, hein, les amis, parce que entre Volton, Leglu et Dupagne, ça va être difficile de se retrouver entre tous et Dominique. Donc Dupagne, c'est toi qui nous a conseillé d'écouter un extrait du Masque et la Plume autour de Star Wars.
Parce que c'est magique, absolument magique.
Ouais. 77, octobre 77.
La guerre des étoiles vient de sortir et Jean-Luc Borry s'écharpe avec Georges Charansol à propos des néons et des lasers. Et
il est plus inspiré que jamais.
On se repose ou on prend encore un film difficile?
Non, il faut prendre les étoiles.
On prend quoi? Il faut prendre la guerre des étoiles.
Oh oui.
Oui, la guerre des étoiles.
Bon, alors, la guerre des étoiles, Georges Lucas qui commence. Jean-Louis, peut-être, rapidement.
Oui, si vous voulez.
Vas-y.
C'est-à-dire que c'est le genre de film pour lequel il faut se refaire une âme d'enfant, toute fraîche. Ce à quoi nous réussissons très bien. Il y a un duel fantastique de Durandal. Alors, il y a des épées. Naturellement, c'est des rayons laser.
Oui. Non, c'est du néon.
C'est
tout simplement du néon.
Ah, voilà. Voilà, vous avez un exemple d'une âme qui n'est pas fraîche, celle de Saranson, qui voit du néon alors qu'il faut voir un laser. Moi, j'ai vu un laser. C'est un laser.
C'est plutôt ça, quand même.
On se bat avec des rayons laser. Et bon, il faut marcher. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un robot peut finir par être plus humain qu'un homme dans la mesure où il se détraque. Et c'est représenté, si vous voulez, d'une façon très marrante, oui, par deux robots, un grand et un petit, c'est une espèce de Laurel et Hardy, oui, du cosmos, et qui sont, oui, oui, qui c'est, clopinent, c'est qui, oui, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Il y en a un qui lui dit, est-ce que je vous prête mes circuits magnétisés, etc. L'autre qui dit, voulez-vous pas me toucher, vilain, c'est très marrant, etc. Et puis, il y a une autre idée qui est moins rassurante, c'est que, d'après ces messieurs, il y a, on va vers un monde qui est terriblement fasciste, c'est-à-dire qu'il y a un fascisme noir qui est représenté par les vilains, le chevalier qui est coiffé comme une espèce de samouraï dans son château, dans sa planète forte, c'est le fascisme noir, mais qui est vaincu par une espèce d'autre fascisme, c'est un fascisme blanc. Là, je suis pas tout ça, là, ça commence à m'inquiéter, c'est-à-dire que la cérémonie finale, c'est Nuremberg, si vous voulez, en matière plastique blanche. Si, voilà. Mais pas du tout. Quand il y a toute une foule, marche au pas cadencé, fait des gestes comme ça et porte le même uniforme, moi je flippe. Oui. C'est bien ça. Et par conséquent, et dans ce film, c'est ça.
Voilà, un régal.
Ça dure 10 minutes, il faut écouter la totalité.
C'était donc en octobre 77, c'était à La Rochelle d'ailleurs, où avait eu lieu l'émission, au moment juste de la sortie donc du premier épisode de Star Wars. Allez, premier sujet de discussion aujourd'hui, la COP21 avec une question. Est-ce que nous sommes déjà saturés avant même qu'elle n'ait commencé ? Dominique Volton, je te donne la parole pour commencer, mais il faudra que tu la partages avec tes camarades, tu le sais. Hein.
Oui, bien sûr. je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai fini, là, c'est bon. Quand même, l'écologie, c'est une des grandes victoires politiques du dernier demi-siècle, comme prise de conscience mondiale, même si les difficultés existent encore dans les États, bien sûr. Mais enfin, plus personne n'ignore cet enjeu, pas plus que je dis tout à l'heure que l'importance des ONG. Mais là, on est sur le... Et ce qui me frappe dans un événement international qui vient après plusieurs demi-réussites ou demi-échecs, c'est que, à force de vouloir informer, mobiliser, comment dirais-je, sensibiliser, etc., etc., les opinions publiques, on risque d'arriver exactement au résultat inverse. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un univers qui est saturé d'informations. Je parle pour les pays riches, développés et démocratiques, où il y a les chaînes, il y a la radio, la télévision, Internet, la presse écrite, les réseaux, etc., etc. Et on ne se rend pas compte que plus on fait d'informations sur un sujet, plus naturellement la personne la plus compliquée de la communication, qui est le récepteur, plus non, il dit très bien, j'ai compris, ça suffit. Et en fait, plus on en rajoute, plus naturellement le rejet est violent. Mais il est toujours silencieux. Et donc, par conséquent, c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour tout. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que la totalité des chaînes nous parlent tous à nous individuellement, mais nous, on est saturés, on n'a qu'une journée de 24 heures pour vivre, et la répétition à l'infini risque de produire exactement l'effet inverse, d'une part. Et d'autre part, nous constatons tous très bien que la multiplication des chaînes depuis une vingtaine d'années n'aboutit pas à un élargissement du champ couvert par l'information. Autrement dit, on répète toujours la même chose et on voit toujours les mêmes personnes sur les écrans. Et donc, par conséquent, une espèce de déception profonde sur le fait que cette victoire extraordinaire de l'information pour des raisons techniques et souvent politiques aboutit quand même à un rétrécissement. Et quand on est sur les grandes causes, moi je dirige le comité d'éthique de la publicité en France, on le voit très bien, les grandes causes sont souvent les pires effets en matière de com'. Parce qu'à force de dire, c'est bien, on défend le bien, et on y va, et on matraque. Et donc, si vous voulez, ce qui m'intéresse dans cette affaire-là, au-delà de la COP21, c'est que, je voudrais juste finir le raisonnement, il doit durer moins d'une minute quinze.
Ça commence.
Vous arrêtez, merci. La question qui m'intéresse, elle est bien au-delà de la COP21, parce que il peut y avoir du rejet pour les meilleures campagnes d'information et de communication, d'intérêt général. Il peut y avoir aussi du rejet pour tous les types d'informations. Et si on prend la situation tragique que nous connaissons depuis vendredi dernier, la répétition à l'infini, là aussi, des événements que l'on suit, des informations, des rumeurs, etc., fait qu'il y a le même risque. Et donc, par conséquent, il y a un problème pour les démocraties qui est de savoir pondérer et arrêter de prendre le récepteur comme un tuyau que l'on peut bourrer d'un maximum d'informations dans lesquelles il sortirait.
Oui, mais on n'est pas que des récepteurs qui se faisons bourrer, comme tu dis, Volton.
Mais pas du tout. On reçoit déjà l'information. On va la chercher, c'est la même chose.
Alors là, et moi,
elle a des expressions.
Non, mais elle a raison.
Elle a raison sur quoi ?
Sur le fait qu'elle ne se laisse pas bourrer.
J'ai jamais voulu la bourrer.
Non, mais laissez-la s'expliquer. Ces récepteurs, là aussi, il faudrait aller regarder. Peut-être que les sciences sociales peuvent aller regarder.
Il faut comment dire ça, plus de gentillesse, quand même.
Non, mais laisse parler les autres.
Comment se comporte-t-il, alors, là, autre expression journalistique, sur le terrain ? C'est-à-dire, comment s'organisent-ils entre eux ? Parce que, si tu veux, si on garde cette vision top-down... Hein, alors la radio, la télé. Alors d'accord, je ne suis pas
sûr.
Mais si tu veux sur le terrain, quand tu fais de l'associatif, quand tu es dans ta commune et que tu dois te poser la question, est-ce qu'on va mettre une éolienne ou pas, que tu dois te poser la question, est-ce que je vais mettre du panneau solaire sur ma maison, et puis peut-être que je vais avoir les architectes des monuments de France.
Mais les problèmes ne sont pas de même nature. Il y a une écologie quotidienne. Elle n'a pas grand-chose à voir avec le discours mondial. Je voudrais simplement mettre en avant une chose toute simple. C'est attention, je répète ma phrase simple, nous risquons de mourir sous une saturation d'informations faites pour les meilleures raisons du monde.
Mais
si l'information, elle peut tuer, bien sûr.
Mais alors, justement, ce à quoi tu assistes, et moi, je ne sais pas si tu rencontres les mêmes, il y a plein de gens qui me disent, eh ben moi, j'écoute plus la radio, j'écoute plus la télé, je dialogue avec mes voisins, je fais autre chose et je suis en train de créer autre chose. Alors voilà, est-ce que c'est pour de vrai et minuscule ?
La parole à Marie-Odile Mouchicourt, s'il vous plaît.
Moi, je dirais qu'il y a quand même une prise de conscience qui est en train de se faire, qu'effectivement, on en a peut-être marre d'entendre les blabla pour répéter toujours, qu'ils nous disent toujours un peu la même chose. Je suis d'accord. Mais il n'empêche qu'il a peut-être fallu tout ce ramdam pour que cette prise de conscience finisse par rentrer dans toutes nos têtes, qui sont quand même des têtes très difficiles à faire évoluer.
Mais attendez, il y a d'abord un combat politique pour l'écologie. C'est pas l'information qui a fait bouger, c'est le combat politique de l'ensemble des écologistes.
L'information aussi, Dominique.
Bien sûr qu'elle peut jouer encore un rôle. Ce que je veux simplement dire une chose, c'est qu'il y a tellement de tuyaux aujourd'hui, interactifs, ou dans n'importe quel sens, qui font que vous et moi, au bout d'un moment, sur quel que soit le sujet...
On est saturé.
Il y a
compris.
Un vrai problème théorique de théorie de la démocratie et de la politique.
Le problème, c'est qu'on est intéressé par ce qui nous intéresse. Quand on habite plus de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, certes, le réchauffement climatique préoccupe, mais on ne le voit pas dans son quotidien. Donc, on n'est pas forcément à la recherche permanente d'informations, même si on voit la banque qui se fondre à la télévision. En revanche, quand on voit des bombes qui sautent partout, bien sûr que tout le monde est accroché à la radio, à la télévision, pour savoir s'ils peuvent aller faire leurs courses, ils peuvent laisser leurs enfants en sortir dehors. Donc, quand on martèle un message, le même, permanent auprès de gens qui ne le vivent pas dans leur quotidien, certes, ils ont la tête à ça, mais ils ne vont pas forcément être aussi impliqués quand ça les concerne directement.
Dominique Leglu.
Oui, alors, deux choses, Dupagne. Tu as tout à fait raison. D'une certaine façon, je me pose la question de que pensent aujourd'hui les gens de la Faute-sur-Mer, hein, qui ont bien connu l'inondation. Mais je pensais encore à autre chose, pour revenir à qui parle cette année. Attention, ne négligeons pas le fait qu'il n'y a pas que les États et les ONG, il y a aussi les entreprises.
Absolument.
Les très grosses entreprises, elles aussi ont pris conscience. Bon, elles avaient peut-être pris conscience, mais maintenant elles vont peut-être mettre des choses en œuvre, peut-être parce qu'elles y seront contraintes par des normes. Et ça, quand cette expression-là va plus s'exprimer, et bon, peut-être que des émissions à caractère économique vont le faire dire, parce que jusqu'à présent, tu vois, oui, voilà, c'était des beaux esprits qui pensaient à ce réchauffement climatique, c'était des scientifiques peut-être dans leur labo perdu. Maintenant, c'est très concret, et en plus, ça va coûter cher.
Mais ça devient une blanchisserie, ou plutôt une verdisserie. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pollueurs qui viennent s'acheter une vertu en participant à la grande kermesse. C'est à vomir. Enfin, je sais pas. C'est comme si on avait Servier qui sponsorisait un congrès sur l'éthique de l'industrie pharmaceutique. Enfin, on arrive à des choses invraisemblables. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement malsain. On n'aurait jamais dû laisser les pollueurs participer financièrement à ce genre de manifestation.
Oui, mais si c'est pour mettre moins de CO2 dans l'atmosphère,
alors
après tout,
là,
Dominique.
Je suis pas d'accord du tout. Oui. Parce que l'argent n'a pas d'odeur.
Ah, si.
Voilà.
Ah, si.
Je suis désolée. Quand on a besoin de faire des actions aussi importantes que de lutter contre le réchauffement climatique, excuse-moi, mais moi et
c'est un piège. En fait.
C'est un piège
tentant.
Pour qui pour...
C'est tentant d'aller voir ceux qui ont de l'argent, mais le problème c'est qu'on finit par tomber du côté obscur.
Ce que je voulais essayer de dire simplement, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de participation à la vie publique sur la question de l'écologie. Alors les États, et c'est la COP21, ce sont les États la plupart du temps. Il y a les ONG, dont je maintiens qu'elles ont joué un rôle important, et la société civile qui se mobilise par des associations, et puis il y a effectivement le modèle économique, où en fait demain le capitalisme sera écologique, faut pas se faire d'illusions, et pourquoi pas, et tant mieux d'une certaine manière. Mais
le capitalisme chinois. Hein.
Mais bien sûr, mais pourquoi pas, je veux dire, à l'importance, comme dit Marie-Dille, il faut arriver à trouver une solution à ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces quatre niveaux d'action, du rapport à l'action politique concernant l'écologie, ne se trouve pas de la même manière sur le type d'information. Et moi, je voulais simplement insister sur le fait qu'il y a une manière de parler des responsabilités de l'écologie qui est très souvent sous l'ordre de la responsabilité, de la culpabilité, de la faute, qui risque d'avoir un effet exactement inverse, parce qu'on ne peut pas rendre responsable la totalité des gens qui habitent sur une planète de ce qui se passe actuellement. Voilà. Et ça, je pense que cette espèce de morale qui a sous-jacente à une bonne partie de l'information, elle ne vaut pas seulement pour ça, elle vaut beaucoup sur des grandes causes. Attention, attention.
Allez, il y a une question de Viron qui nous dit la COP survient à un mauvais moment. Évidemment, elle va être amputée de réunions, de manifestations. Elle va laisser la société civile insatisfaite compte tenu de l'enjeu planétaire. Pourquoi n'est-elle pas reportée, Dominique Le Glu ?
Ouais, écoutez, il faut quand même demander aux autorités.
Vous avez peut-être tourné sur la question.
Je ne suis que journaliste. L'analyse la plus basique, c'est que...
T'es pas une bonne journaliste.
Non, voilà. L'analyse la plus basique, c'est que si vous faites le signe que une chose que vous jugez et que vous avez affirmée pendant des mois, voire des années, extrêmement importante, il va falloir la reporter, et ben, du coup, ça veut dire que vous vous soumettez.
Bien sûr, c'est la soumission politique. Mais les politiques l'ont immédiatement dit, ça va être
difficile. Et c'est pire pour le message, là, pour le coup.
Bien sûr.
Ah ben, c'est là, ça, non, serait, ça le ratiboiserait
comme on
totalement.
Est dans une solidarité mondiale sur l'affaire du terrorisme, cette solidarité mondiale, elle va sûrement se retrouver, voilà, dans une réorganisation de telle sorte que ce soit faisable.
Allons, enfants du Bataclan, toute la journée sur France Inter, des artistes qui se sont produits sur la scène du Bataclan, le 24 novembre 2003, par exemple, lors de sa grande tournée des Grands Espaces. C'était Alain Bachung avec Sommes-nous. Et ce sera également une soirée spéciale, les enfants du Bataclan, ce soir, 21h-23h, présentée par Didier Varro et Rebecca Manzoni. Et ce sera à suivre sur France Inter. Alain Bachung, tout de suite, dans notre club du Masque au Carré.
Je tambouriné, tambouriné, au saillis de sa bonté. Un Judas m'a lorgné et j'ai pris l'hiver en grippe. Seul m'ont laissé déjoué par milliers. Seul m'ont laissé tes avances. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la vaillance? Ou le dernier coquelicot? Décimé, décimé, des armées de répondeurs, occupés à se lire, les naufrages se délient. Seulement laissé nos héros préférés, seulement laissé nos absences, sommes-nous des gonzesses? Sommes-nous de connivence ou le dernier coquelicot? Terre promise, redis-moi ton nom. Dis-moi en face que tout s'efface. Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les autres? Sommes-nous le souvenir? J'ai commandé, décommandé, les yeux, la prunelle, balancé les jumelles, pour ne garder que le flou. Seulement laissé les passions du mortel, seulement laissé. Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la romance? Sommes-nous la sécheresse? Sommes-nous la noblesse? Sommes-nous les eaux troubles? Sommes-nous le souvenir?
Alain Bachung au Bataclan, 24 novembre 2003. Dominique Le Glu,
Ben voilà, il faut que je vous dise même ce qui est hors antenne.
Qui était
ben
oui.
Non, pas
en 2003.
Bataclan, pour moi, c'est un lieu de résistance. Je me souviens de Knobelspiess et quand, toute la discussion qui avait lieu dans les années 70-80 sur les quartiers de haute sécurité. Alors, je trouve que c'est malheureusement d'actualité aussi. Poser cette question-là. Ouais.
Et il y avait qui sur scène là, à ce moment-là ?
Il y a eu Bernard Lavillier, ouais. c'était toute une équipe, Juliette Berthaud, enfin, bon, c'est toute une époque.
Ce soir, 21h-23h, donc sur France Inter, Les Enfants du Bataclan, notre club du masque au carré. Deuxième sujet, les jeux vidéo qui peuvent favoriser la violence chez les jeunes. Encore un sujet sur cette étude. Dominique Dupagne, on n'a toujours pas tranché.
Mais si, parce que là, il y a une très belle méta-analyse qui vient de publier par Ferguson et qui reprend...
Méta-analyse oui.
Ça fait chic. Okay, je le redis autrement. Une synthèse globale de toutes les études publiées sur le sujet.
Une
reprise, une analyse complète de toutes ces études.
À l'instant T.
Qui montre.
Et contradictoire, sûrement.
Et qui montre que, en fait, il n'y a pas de corrélation nette entre la pratique des jeux vidéo et l'agressivité des enfants. Parce qu'il y a un biais absolument monstrueux. C'est-à-dire que, est-ce que, quand on trouve une relation épidémiologique, hein, parce qu'il y a, est-ce que les enfants qui jouent à des jeux vidéo violents deviennent violents? Et il y a, on fait jouer par des enfants à des jeux vidéo violents ou pas violents, et on compare les deux. Auquel cas, on est dans des conditions expérimentales qui sont bien meilleures, bien sûr, pour juger l'efficacité. Mais on est tous violents, les homo sapiens, on a de la violence en nous. Les mâles sont faits pour se battre entre eux, pour conquérir les femelles, c'est comme ça.
Et donc, c'est les un peu plus compliqué que ça.
Oui, mais
c'est bien résumé en même temps.
Laisse-moi finir.
L'histoire de l'humanité ne se réduit pas à ça.
Non, mais on est là pour faire de la vulgarisation, on n'est pas dans un congrès.
Je continue
avec mes mâles qui se foutent sur la gueule pour conquérir les femelles, c'est quand même au fond de nos gènes, profondément dans nos gènes.
Ah bon ? Ça, c'est toi qui le dis.
Ah bon, oui, franchement. Ah
non,
bon
c'est pas moi qui le dis, non, tous les primates sont comme ça, à moins qu'on ait une transcendance totale dans l'espèce humaine, mais je suis pas créationniste, donc pour moi, on est des primates, et donc les mâles se foutent sur la gueule. Globalement, je termine pour conquérir les femelles. Et donc, comme c'est interdit culturellement, comme ça ne se fait plus, il faut dériver cette agressivité. Et pour ça, il y avait plein de choses. On faisait du sport, des matchs de rugby. Qu'est-ce que c'est que le rugby? C'est quand même des mâles qui se battent entre eux. Bon, moi, j'ai pas vraiment vu que les supporters de rugby soient plus violents que les supporters du football. C'est même plutôt le contraire. Et donc, les jeux vidéo, cette espèce de machin violent que les parents ne connaissent pas, parce que les parents d'une certaine génération n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Ça les affole de voir leur gamin jouer avec ça. Mais quand on connaît un peu le sujet, on sait que ça les calme, les enfants. Ils évacuent leur agressivité dans ces jeux-là. Et cette étude le prouve.
Oui, sauf qu'il y a plein d'études qui prouvent le contraire aussi.
Non, c'est des études bidons avec des biens monstrueux.
Je peux dire un mot de recherche quand même. Cette question qui se pose pour les jeux vidéo, elle s'est posée bien avant pour la télévision et bien avant pour la radio. Autrement dit, la question qui se pose, c'est quel rapport y a-t-il entre des événements violents qui sont médiatisés par des techniques, etc. Et on a consacré un numéro entier de la revue Hermès sur la question des jeux vidéo. Là où c'est vrai, il n'y a aucun déterminisme. Voilà, c'est stupide de dire qu'il y a un mécanicisme entre jouer aux jeux vidéo et être violent soi-même. Par contre, la chose qu'on peut dire, c'est des corrélations qui sont largement détendues parce que Dieu merci, on ne peut pas faire de corrélation directe, c'est que plus le contexte est violent, plus il y a un risque que soit le fait du jeu aux jeux vidéo va permettre aux enfants de partir, soit va au contraire les ramener vers une réalité violente. Autrement dit, c'est pas le jeu vidéo qui est en cause,
c'est le contexte,
l'environnement. Et donc là, il n'y a jamais de réponse définitive. Et c'est vrai que là où je suis d'accord avec toi, il faut éviter le déterminisme, mais par contre, on peut dire une autre chose empirique. Attendez.
Non mais je dis à Le Gluy et Monchicourt qu'elles prennent la parole parce que sinon elles vont pas pouvoir remplacer une.
Je redis juste ma phrase. On ne peut pas faire une comparaison sur les travaux d'il y a 30 ans et aujourd'hui parce que le nombre de jeux vidéo qu'il y avait il y a 30 ans par rapport à aujourd'hui est incommensurable. Donc quand on m'a dit la question se repose à chaque fois dans un contexte technologique et d'usage qui c'est quand même la première industrie au monde, le vidéo, hein, bien avant le cinéma. Donc par conséquent, on est face à des questions nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter le déterminisme que ce serait dangereux, mais ça veut dire aussi qu'on a intérêt à être vigilant intellectuellement parce qu'on n'en sait rien sur le fond.
Oui, voilà. Alors attends, moi ce qu'il y a, c'est quand j'entends parler d'environnement,
contexte, je pense
que tu as raison. Mais j'aimerais voir s'il y a des études plus qualitatives au milieu de la fameuse méta-analyse.
Il y en a, bien sûr.
Parce que, en fait, je ne me pose pas une question avec une grosse gaussienne ou un gros paquet de gens. Tu vois, un truc d'épidémiologie. Où, bon, on peut commettre, on sait, des tas d'erreurs et faire des corrélations qui n'en sont pas.
Exactement.
Mais
c'est pour ça que les big data vont être un facteur d'erreur.
Bien au contraire, quelque chose de spécifique. Je m'explique. Entre un certain nombre d'individus, donc des êtres en chair et en os, qui, eux, présentent déjà
des fragilités, des comportements un petit peu borderline. Est-ce que là... Ben, je ne sais pas si on dit la même chose.
Moi, j'ai dit, c'est le contexte qui est déterminant. Pas le jeu, le contexte des
enfants. Non, mais elle parle de la nature initiale de la personne.
Alors, est-ce que c'est une question de nature
Ah, il est acquis, là, on arrive dans le lourd.
Non, mais déjà, quelqu'un qui, serait sensible à... la volonté de toute puissance.
Ok, Dominique, on t'a compris. Vois, moi, je voudrais faire un peu
une méta-pensée.
Méta. Oh là, la méta. Attendez, méta jingle. La méta-pensée de Marie-Odile Manchicourt.
Puisque tout dépend du contexte, puisque tout dépend de l'environnement. Moi, je vous dis.
Moi, c'est parce que j'ai
dit. Laisse-la
parler.
Non, mais je dis qu'il y a les deux objectifs. Je n'ai pas parlé que du contexte.
Moi, j'ai pas dit ça.
Bon, enfin, alors je vous ai pas.
C'est un bon exemple de communication. Ça ne marche jamais.
C'est quand même ma méta-pensée. Alors, allez-y.
Vas-y. Moi, quand je vois que autour de tout l'environnement télévisuel, cinématographique et jeux vidéo y compris, vous cliquez sur un bouton, vous cliquez sur une chaîne, vous voyez quoi ? Des mitraillettes. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que cette société est en train de fabriquer une jeunesse pour aller combattre, pour aller faire la guerre, pour aller tuer. Puisque
c'est quand même vrai, comme
c'est très réducteur. Avec ta méta-analyse,
plus il y a de mitraillettes à la télé, moins il y a de guerre. Excuse-moi,
on n'a jamais établi.
Mais il y a plus de guerre depuis qu'elle est. Mais non, mais moi aussi, je pourrais faire des stats
en même temps, s'il vous plaît. Elle a raison, il y a quand même une question de violence qui se pose dans
cette évidemment.
C'est de la statistique à deux balles. Alors, ce courriel de François.
D'un seul coup, que ça n'a pas d'impact, on peut au moins soulever l'hypothèse que ça peut avoir autant d'impact que pas. Il faut être prudent, modeste.
Le Volton, il comprend pas. François nous dit, que pensez-vous de ces jeux vidéo guerriers qui ne font que pervertir des jeunes enfants et ainsi les transformer en monstres capables des pires carnages en vivant dans des univers irréels.
La méta-analyse dit que ça fait du bien.
Mais non, mais tous les gens meurent dans un lit, c'est pas pour ça que
ça
fait pas du bien.
Si tu veux, là, je vais me cacher derrière quelqu'un d'autre, à savoir Serge Tisseron, que j'avais interviewé quand il y a eu cette tuerie à la sortie de Batman. Quand même quelque chose qu'il disait, qu'il rappelait, lui, il parle en tant que psy aussi, c'est que était proposée dans ces jeux une grande jouissance au moment de la tuerie. Alors là, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que ça va faire basculer du côté obscur parce qu'on va vouloir reproduire la chose dans la vraie vérité, ou au contraire, ou est-ce que ça va la calmer?
Exactement.
Et ça fait une catharsis.
Logiquement, ça la calme.
Mais non, mais il faut laisser ouvert les deux hypothèses. Tu peux pas trancher comme ça, alors que par définition, je l'ai dit tout à l'heure, l'espace audiovisuel des gens s'est multiplié par 20 en 30 ans, et que les gosses aujourd'hui sont des univers saturés d'images, on ne sait pas naturellement vidéo ou réel ou simulé. On ne sait pas du tout.
Moi, je suis d'accord.
Je suis d'accord pour une hypothèse qui ne soit pas déterministe, absolument. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème et que c'est uniquement salvateur. C'est quand même plus compliqué.
Alors, si tu veux, moi, une autre question que je me pose, et je ne sais pas si vous aurez certainement un avis. On mythifie évidemment sur l'avant, toujours. Mais je me dis, quand on se crée, et il n'y a pas que les garçons dans la cour, il y avait les filles aussi, et quand on se crée soi-même ses propres jeux, à la limite ses propres bâtons et ses propres fusils, poum poum poum, et qu'on se courait après, est-ce que là, on n'avait pas un imaginaire personnel qui permettait d'évacuer quelque chose, contrairement à ces choses formatées qui sont déjà proposées avec des images.
Grande liberté. Je sais pas si tu as joué à ces jeux-là. Tu maîtrises ton parcours.
Oui, en fait, tu es balisé.
Quand tu faisais ton service militaire, tu étais complètement balisé. Et là, on t'apprenait carrément avec des vraies armes
à tirer.
Personne n'a jamais dit que le service militaire fabriquait des tueurs.
Jean nous dit, comment ne pas, un courriel, Dominique Volton, s'il te plaît, comment ne pas assimiler la froideur et l'acharnement méthodique des tueurs du Bataclan avec les jeux vidéo où seul le score de victimes dégommées est valorisant. Ils ont peut-être même cru qu'ils auraient d'autres vies pour recommencer.
Oui, c'est quand même une vraie question.
C'est vraiment le raccourci simpliste, facile.
Alors, franchement, t'es énervant.
Non, mais bon, on peut aussi dire que le débarquement en Normandie, si les jeux vidéo avaient existé, ça aurait été pareil.
Tu compares des situations humaines qui n'ont aucun droit de comparaison possible. On est sur des jeux vidéo de la
simulation
de la violence.
On le voit.
Et c'est pas parce qu'il est violent que les jeux vidéo sont innocents.
Chez l'homme. Et les jeux vidéo permettent d'évacuer cette violence alors que Daesh la met en œuvre. C'est tout à fait différent.
Ça fait 40 ans qu'il y a au moins 3 ou 4 hypothèses de ce type-là qui existent. Elles sont contradictoires. On essaie de voir dans les faits ce qui conforte l'une et l'autre. Il faut être prudent et modeste, c'est tout ce que je dis.
Il y a aucun argument solide pour dire que c'est
Mais il y en a autant de ton côté que de l'autre.
Dominique Leglue, pour conclure, s'il te plaît.
Tu es sûr du pagne que cette méta-analyse n'est pas financée par les fabricants de jeux vidéo?
Oui, oui, il y a des intérêts déclarés, c'est absolument pas le cas. Ouais. Alors qu'en revanche, beaucoup d'analyses dans l'autre sens ont été faites par des gens qui voulaient prouver que les jeux vidéo étaient dangereux. Il y avait un prérequis intellectuel. Non.
Allez, on arrête sur ce sujet. Le troisième dans un instant pour savoir si les scientifiques doivent s'engager davantage autour des grandes questions de société. On en parle juste après. Alain Amour, ça va nous faire du bien, ça tient. Serge Gainsbourg.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire. De tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 ans. Ça. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives m'ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sais me dégrader de pavots sur les pavés de l'amour.
L'amour et Gainsbourg à l'instant.
Tête au carré.
On est arrivé.
Le club.
Ah oui, déjà.
Avec Mathieu Vidard.
On n'a pas vu le temps passer, dis donc.
Sur France Inter.
Et mes camarades Dupagne, Volton, Le Glu, Les Dominiques et Marie-Odile Monchicourt, troisième sujet de notre club du Masque au Carré. Les scientifiques doivent-ils plus s'engager autour des grandes questions de société? Marie-Odile, t'as l'impression de pas trop les entendre?
Alors, oui, ça c'est un sujet extrêmement intéressant pour lequel je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais avoir...
Ah
ben
bravo, c'est toi qui l'as choisi en plus.
Non.
Ah pardon, c'était toi, Dominique Le Glu?
Non, mais peu importe, laisser parler Dominique, parce que Dominique est une journaliste qui aime bien fouiller justement toutes ces choses-là. Donc, je vais lui donner la parole. Moi, excuse-moi Dominique, mais c'est moi qui ai proposé le sujet.
Ah, mais c'est bien ce qui me semblait.
Je suis là-dedans, c'est les résultats de 30 ans.
Non, parce que depuis 30 ans que j'interroge des scientifiques, je les vois toujours extrêmement mal à l'aise par rapport à leur institution, et ils aiment beaucoup se réfugier derrière leur institution pour ne surtout pas donner leur avis sur des sujets sociétaux. Par exemple, le clonage de la brebis de Lille, je me souviens que j'avais demandé à des spécialistes de clonage, qu'est-ce que vous pensez de ce grand sujet, de ce grand questionnement autour du clonage humain, puisque c'était ça la discussion à l'époque qui affolait un peu tout le monde, et ils me répondaient, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, moi je suis chercheur, je reste derrière mes recherches. Et moi ça m'avait beaucoup choquée, je dois dire, que humainement, ce sont des citoyens aussi, oui. Ils doivent se positionner aussi par rapport à la récupération de leurs recherches.
Oui, bien sûr, mais on parlait tout à l'heure des sponsors du COP21. Quand tu es un chercheur et que tu dois financer tes recherches avec des sponsors privés parce qu'on te dit qu'il n'y a plus d'argent public, au bout d'un moment, tu crées des dépendances. Et quand tu crées tes dépendances, tu as toujours peur de l'ouvrir, de peur de fâcher un des sponsors de toi ou de ton institution et de plus pouvoir ensuite avoir de brevets, de subventions.
Ah, mais je suis tout à fait d'accord.
L'autre chose qui est importante, c'est que les scientifiques, ils ont des doctorats doctorat en France. À l'étranger, dans les pays anglo-saxons, ça s'appelle des PhD. Ça veut dire des doctorats en philosophie. C'est intéressant, hein. Ça veut dire philosophie. Philosophie au sens initial du terme, c'est-à-dire s'intéresser à la connaissance du monde, à la connaissance de l'homme. Absolument. Mmh. Mais c'est le savant même, globalement. Mmh. Et donc, bien évidemment, alors que nous, on a réduit ça au mot docteur, les scientifiques sont bien sûr, en tout cas peut-être mieux que les artistes, bien placés pour donner leur avis sur les grands sujets de société.
Dominique Leglu.
Il faudrait peut-être faire un tout petit rappel historique. On est en train de parler des chercheurs aujourd'hui dans un contexte institutionnel spécifique. Tu as le métier de chercheur. Hein. Ça n'a pas toujours été comme ça.
Bien sûr que oui.
Et de facto, alors de fait, hein, pour parler français, mais quoi que le latin, si on remonte au XVIe ou au XVIIIe siècle, on voit que le chercheur a, d'une certaine façon, toujours été en société.
Il était trouveur, il n'était pas chercheur à l'époque.
Oui, mais on ne disait même pas ça. Hein.
C'est un drôle de mot, chercheur.
Oui. Récemment est sorti ce livre, cette série d'ouvrages vraiment que je recommande, L'histoire des sciences et des savoirs par Dominique.
On va le recevoir pour 3 émissions.
Ben voilà. Reparlons de Galilée, et il l'évoque très précisément. Galilée, mathématicien, ça voulait dire que c'était quelqu'un, parce que ça voulait dire ça à l'époque, qui construisait des choses. Et en l'occurrence, il a aidé la Sérénissime Venise à une certaine époque à construire des bateaux de guerre. Et ça l'a pas empêché de voir les satellites de Jupiter après. Donc, on peut faire aussi les deux, mais il faut se rapporter à son temps présent. Alors, on a tendance actuellement à simplifier le débat en disant, est-ce que vous êtes dans la recherche appliquée ou est-ce que vous êtes dans la recherche fondamentale? Mais évidemment, c'est plus compliqué. Et quand même, on ne peut pas ne pas parler, Mathieu, de cet appel, par exemple, du président Fuchs, du CNRS. Qui fait justement appel, alors là, ça veut dire qu'il y a quand même des fonds quelque part.
À l'ensemble de la communauté académique, un appel à proposition sur tous les sujets pouvant enlever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs conséquences en ouvrant justement des solutions nouvelles.
Exactement. Donc là, besoin que ces gens qui travaillent sur les questions de radicalisation, sur les questions de société traversée par des courants religieux divers, l'identité, etc., s'impliquent, d'abord viennent, s'implique et, à un certain moment, trouve les moyens de faire passer les découvertes ou, en tout cas, les concepts qu'ils ont établis.
Il y a d'ailleurs, très important. Entre parenthèses, un autre appel de très grande ampleur qui va être lancé aussi par d'autres scientifiques, d'autres institutions, Collège de France, Île-de-France, CNRS, ils vont tous se mettre ensemble, on va en parler dès lundi dans l'émission.
Dominique Leglu a raison de dire que c'est pas nouveau, c'est un problème très ancien, l'engagement du savant dans la cité. Très ancien, c'est un combat politique. Quand ça va bien, c'est-à-dire quand les scientifiques sont d'accord avec les politiques du moment, ça va bien. Quand ils ne sont pas d'accord, ça fait des conflits très violents, première chose. Deuxième chose, la pression démocratique de nos sociétés fait que les sociétés demandent de plus en plus de choses aux communautés scientifiques. Et nous, en tant que scientifiques payés par l'État, on trouve normal que les sociétés nous manifestent des questions. Et d'ailleurs, une partie des travaux scientifiques sont orientés à partir des questions posées par les politiques, posées par la société civile. Et la question de fond qui est posée, c'est jusqu'où est-ce que les scientifiques peuvent-ils rester dans leur univers de sciences et de connaissances sans trop d'interaction avec la société, première phase. Deuxième phase, jusqu'où doivent-ils descendre dans la société ou aller vers la société pour expliquer leur position, voire leur position parfois contradictoire à la société, et à partir de quand ils doivent faire des controverses, parce que la science étant maintenant dans l'espace public, elle est l'objet de controverses. Et quatrième dimension, c'est pour ça que la question est très compliquée, à partir de quand les scientifiques doivent-ils avoir le courage de repousser ou de refuser certaines pressions de la société pour garder l'autonomie sans laquelle il n'y a pas de production de la connaissance. Donc, autrement dit, il y a quatre dimensions. Et il y en a même une cinquième, il y a des scientifiques qui deviennent des conseillers du prince, et on le voit depuis le fin 19e, certains vont du côté d'un prince. Donc je résume les problèmes qu'on a sur cette question que vous soulevez. Un, jusqu'où est-ce qu'on doit vulgariser? Jusqu'où est-ce qu'on doit accepter les pressions de la société? Jusqu'où est-ce qu'on doit descendre, argumenter ou ne pas être d'accord avec la société? À partir de quand peut-on refuser des demandes de société pour conserver notre autonomie scientifique? Autrement dit, la question du rapport entre le scientifique et la société, ou le savant et la politique, c'est une question qui est politique, à laquelle les scientifiques n'ont pas l'habitude de répondre, parce que par définition, nous avons une formation, et c'est vrai pour le monde académique dans son ensemble, pour penser, il faut qu'on soit à côté de la société.
Oui, mais attends, tu parles de ça, Volton, et la COP21 que nous évoquions tout à l'heure, on y est en plein.
Oui, mais les scientifiques n'ont pas été consultés, la plupart du temps.
Un des gros débats, d'ailleurs. Eux-mêmes, ce sont...
Ça a été essentiellement politique, technique et économique. On n'a pas écouté les scientifiques.
Regarde dans quel dilemme ils se sont trouvés. Tu avais déjà gens d'un côté qui disaient, oh ben,
on a entendu les climatologues quand même.
Oui, alors une dernière chose à dire que j'ai pas dit. Les scientifiques des trois quarts du temps ne sont jamais d'accord entre eux. En gros, nous, on fait semblant d'être très
pas sur le climat, en tout cas.
Il y a une polémique qui n'est jamais terminée. Mais c'est complètement pas vrai. Il y a une controverse qui dure et qui continuera.
Mais il y a quand même un consensus sur la question climatique.
Sur le réchauffement, oui, mais pas forcément sur sa cause.
Ni sur les causes, exactement. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut pas caricaturer les climato-sceptiques comme ça. C'est en fait, la plupart du temps, la science, c'est intéressant, ça avance de manière controversée entre nous et entre nous et la société. Le jour où on reconnaîtra ça, on fera tous un progrès énorme.
Je voulais dire que les scientifiques ne sont pas forcément des mauvais politiques. Angela Merkel a un doctorat en physique et un doctorat en sciences de la vie et de la Terre. Ce n'est pas forcément la plus mauvaise dirigeante européenne et celle qui s'est le plus mal comportée face aux migrants. Alors, est-ce que les énarques sont des scientifiques? Est-ce qu'ils ont un doctorat en administration? Je ne suis pas absolument certain qu'on puisse les considérer comme
Napoléon était un grand mathématicien, il est à l'Académie des sciences. C'est quand même incroyable, ça.
Oui, mais on peut être clivé et on peut être aussi évolutif dans sa propre vie. Hein. On peut avoir été scientifique et puis ensuite passer au politique.
C'est pas une mauvaise chose d'avoir une formation scientifique quand on veut faire la politique.
C'est une bonne.
Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs, Dupagne, cher ami? J'ai même du mal à dire tu, c'est incroyable, ça.
Oui,
sur Internet, sur atout.org, dans ce discours de langue de tes rêves.
Oui, en fait, pour la première fois sur mon blog, après 300 articles sur la médecine, j'ai fait un article politique parce que j'ai été très déçu par le discours d'Hollande et j'ai rédigé celui que j'aurais rêvé entendre, voilà, tout simplement.
Ah, ouais. Faut qu'on se précipite alors pour
aller voir. Moi je pense que c'est une très bonne question qui mériterait X émissions sur les allers-retours entre la science, les scientifiques et la société. Et c'est vraiment pas simple de comprendre quand est-ce qu'on doit intervenir, quand est-ce qu'on doit pas intervenir, quand est-ce qu'on est d'accord, quand est-ce qu'on n'est pas d'accord. Parce que c'est une question fondamentale pour l'avenir de nos sociétés. Parce que la question se pose pour les scientifiques, mais elle se pose aussi pour les journalistes par exemple. C'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'un journaliste doit être près de la société, à partir du quand doit-il garder son indépendance pour faire son métier, résister aux pressions politiques, etc. Autrement dit, il y a plein de métiers qui ont des compétences qu'il faut des années pour acquérir, qui sont sous la pression de la société, jusqu'où que la pression de la société démocratique est utile, à partir de quand est-ce qu'elle est néfaste. Et c'est vrai aussi pour des métiers, pour la politique. Un politicien, un homme politique, il ne fait que suivre ce que veut la société. Je prends un exemple.
La société
pour montrer que c'est une question centrale. Peine de mort et
C'est pas ça. Un homme politique, il dit mais je dois écouter la société. S'il écoute trop la société, il fait rien. Donc c'est toujours un rapport de résistance entre une communauté professionnelle qui a des qualités, des métiers, des compétences techniques et la société. Et là, les retours sont très compliqués, se jouent au cas par cas.
Alors moi, je voudrais t'interpeller, toi, Dominique Volton, ce grand professionnel de la communication. Justement, moi, je pense que les grands experts scientifiques dont on a attend vraiment qu'ils nous aident, qu'ils aident les politiques, qu'ils aident la société. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas suffisamment s'exprimer avec conviction.
On l'a appris en
battant.
Oui, attends, il y a deux choses. Une bonne partie de mes collègues et de mes camarades qui effectivement préfèrent ne pas s'engager dans l'espace public parce que je suis d'accord que bien sûr, parce que c'est difficile et qu'on y prend des coups, je suis à 100% d'accord, on doit y aller plus. C'est simplement dit qu'on peut pas passer son temps à y aller tout le temps. C'est ça que je veux simplement dire.
Mais c'est pas une question de pas passer son temps, mais bien sûr qu'il faut y passer plus son temps. C'est trop grave les enjeux.
Dans le micro, tu peux te mettre en colère, mais dans le micro.
Je signe qu'un universitaire ou un monde académique.
Elle est debout sur la table.
Oui, pour ceux qui n'ont pas vu.
Elle a renversé les verres de Beaujolais, c'est infernal.
Je voudrais dire deux choses. On demande aux scientifiques d'être des experts. Je prends ta phrase.
Moins d'une minute.
Oui, on peut être expert de temps en temps, mais de temps en temps, un chercheur, il n'est pas capable. Qu'est-ce qu'une expertise? C'est une réponse positive. Nous, un chercheur, on relance la plupart du temps la question. Donc,
Je sais pas.
Notre travail de scientifique ne peut pas se résoudre au travail de l'expertise.
Allez, la conclusion, le glu.
Si
on prend la parole, je te la donne.
C'est la même que Volton, il faut plein d'émissions.
Bon ben voilà, donc tout le monde est d'accord. Merci beaucoup d'être venu.
Moi je voudrais dire merci à Jean-Louis pour le Beaujolais, parce qu'il se reconnaîtra et c'est vraiment, il est extraordinaire.
Attention, tout ça évidemment.
Avec modération.
Avec grande modération. C'est quand même un médecin qui nous conseille de boire du Beaujolais. C'est incroyable.
Dans les mots,
Allez, le masque et la plume, 60e anniversaire, ce sera dimanche sur France Inter. Grande soirée entre 20h et 22h. Ne manquez pas ce rendez-vous avec tous les chroniqueurs autour de Jérôme Garcin. Avis à la pub, ça c'est au Cherche Midi, Dominique Volton, et puis la revue Hermès sur les jeux vidéo ou les chercheurs au cœur de l'expertise aux éditions du CNRS. C'était les sujets par exemple dont nous avons parlé. Bon week-end à tous.
Tous les vendredis.
vendredi à 19h20 sur France Inter, Secret d'Info.
Le magazine de l'investigation.
Mathieu Aron.
Ce soir, enquête sur la fabrication du monstre Daesh. A-t-on fermé les yeux sur la montée en puissance de ce groupe terroriste? Quelle a été l'implication de l'Arabie Saoudite et du Qatar? Et puis, quel rôle a joué la diplomatie française? Une enquête signée Jacques Monin et Benoît Colomba.
Secret d'Info, ce soir sur France Inter, à 19h20.
Voilà, vous êtes plus d'un million à podcaster chaque mois les émissions de La Tête au Carré. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux. Et vous pouvez podcaster le best-of aussi concocté pour vous par Stéphanie Texier, les meilleurs moments de la semaine dans l'émission en moins de 10 minutes. Voilà, passez un excellent week-end. Merci à Arnaud Caillet. Vous êtes sur France Inter.